Valdo Pellegrin vient de publier « Montpellier, de savants en découverte » aux éditions Alcide, livre que nous avons présenté sur cette antenne, sur FM+, au mois d'octobre. En 18 épisodes, du square Planchon à l'école supérieure d'agronomie Place Viala, Valdo Pellegrin traque médecins, chimistes, scientifiques qui font l'histoire urbaine de Montpellier.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rondelet et de Rabelais. Quand vous descendez la rue de la Loge, la première rue que vous trouvez sur votre gauche, c'est la rue des Trésoriers de France. Et là, les amis de l'université, sur l'immeuble qui fait le coin entre la rue de la Loge et la rue des Trésoriers de France, au numéro 17 rue de la Loge, les amis de l'université ont mis une plaque. Une plaque que je trouve un peu ambiguë. Sur cette plaque, il est écrit « Ici logé Rondelet, qui le 15 septembre 1530, reçut en cette ville François Rabelais ». Alors, ça a l'air de faire croire. Je l'ai longtemps cru que, en fait, c'est dans cette maison que Rondelet avait reçu Rabelais. En fait, Rondelet, il n'habitait pas là en 1530, puisqu'il s'est marié avec sa femme, Madame Catherine. Non, c'était pas Catherine, elle avait un autre nom. Jeanne. Catherine, c'était la sœur. En fait, cette maison-là appartenait à Jeanne et Catherine Sandre. Jeanne étant la femme de Rondelet qu'il a épousée en 1538. Donc en 1530, il n'habitait pas là, c'est évident. Voilà. Donc vraisemblablement, la première fois que Rondelet a rencontré Rabelais, c'était dans les locaux de l'université de médecine, rue du Bout du Mons, qui s'appelle aujourd'hui rue École de Pharmacie. Et il se trouve que Rondelet était ce que l'on appelait le procureur des étudiants. Alors, je vais d'abord me consacrer à Guillaume Rondelet, et vous verrez que je vous expliquerai ce que c'est que le procureur des étudiants pendant qu'on parlera de Rondelet. Alors, Rondelet est né en 1507, et sa maison natale, elle se trouve rue des Balances. La rue des Balances, c'est une rue qui est parallèle à la rue Saint-Guilhien, qui démarre boulevard Jeu de Paume, comme la rue Saint-Guilhien, et qui remonte vers Saint-Roch, vers la rue des Sœurs Noires. Dans cette rue, quand vous la remontez, vous voyez une demi-arche qu'on appelait l'arche Boulet, qui a disparu en 1771. Et il se trouve que c'est l'arrière de l'hôtel de Castries qui a sa entrée principale, rue Saint-Guilhien, au numéro 31. Voilà. Eh bien, Rondelet est né là, dans cette maison. Alors, c'était un garçon qui avait une santé un peu fragile. Il a été orphelin très, très rapidement. Il s'était 8 enfants. Et il a été, en fait, élevé essentiellement par son frère aîné, qui était apothicaire. Il a fait quelques études à Montpellier. Et à 18 ans, eh bien, il est parti compléter ses connaissances, voilà, à Paris. Donc déjà, il voyageait pas mal à cette époque. Puis, il est revenu à Montpellier. Il a été immatriculé en 1521 à l'université de médecine. La même année que Nostradamus, dont il n'était pas très copain. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et un an avant l'arrivée de Rabelais, en 1530. Rondelet va être élu procureur des étudiants. Alors, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, l'université, c'était deux corporations, l'une en face de l'autre. Il y avait la corporation des maîtres, représentée par le chancelier, et la corporation des étudiants, représentée par le procureur des étudiants. Et le procureur des étudiants avait un rôle considérable. C'est lui qui prenait les inscriptions, c'est lui qui ramassait l'argent quand il fallait pour les examens. Il faisait toute la gestion, c'était un rôle extrêmement important. Et il était renouvelé chaque année. Et quand je vous disais que Rondelet n'était pas très ami avec Nostradamus, il se trouve que les médecins de tout temps, sous l'Ancien Régime, disons, n'aimait pas du tout les apothicaires. Or, il se trouve que Nostradamus, quand il est arrivé à Montpellier pour s'inscrire, on a appris qu'il avait fait quelques études d'apothicaire, qu'il était apothicaire. Donc, une méfiance très nette. Et en plus, on a rapporté à Rondelet qu'il avait dit du mal des docteurs. Résultat, Rondelet a écrit dans le registre d'inscription « Tu vois, celui qui est ici, il a dit du mal des docteurs et je raye son nom. » Et Nostradamus va poursuivre ses études, mais il n'aura jamais le diplôme de médecin de l'université de Montpellier à cause de ça. Vous voyez le pouvoir que pouvait avoir un procureur des étudiants. Voilà. Alors, Rondelet, procureur des étudiants, du 11 janvier 1530 au 2 mai 1531. Vous voyez, donc un peu plus d'un an. Il va être bachelier en 1531. Il va faire son stage pratique à Pertuis, dans le Vaucluse. Pertuis dans le Vaucluse, pas très loin de la Durance. Ensuite, il va aller à Paris, et où il passera 2 ans. Il va là suivre des cours en même temps que d'anatomie à la faculté de médecine de Paris, en même temps que Vésale, qui est considéré comme le plus grand anatomiste de ce siècle-là. Et c'est là qu'il va avoir une passion pour l'anatomie. Et en 1534, il revient à Montpellier. Il n'était que bachelier jusque-là. Il va passer en 1537 sa licence, puis son doctorat. Et en 1538, ça y est, il va se marier pour de bon avec Jeanne Sandre et habiter cet immeuble qui fait le coin de la rue de la Loge et de la rue des Trésoriers de France. À partir de 1539, on s'aperçoit que dans les registres, Rondelet fait des cours. Et il fait des cours, mais il va être souvent absent, quelquefois plus d'un an, parce qu'il va rencontrer le cardinal de Tournon. Et il va devenir le secrétaire du cardinal de Tournon. Alors c'est assez marrant parce que le cardinal de Tournon, il s'appelle de Tournon tout simplement parce qu'il est né à Tournon. Hein. Et d'ailleurs il va créer un collège confié aux jésuites à Tournon. Tournon, c'est une ville qui est, je crois, 15 kilomètres au nord de Valence, hein, sur les bords du Rhône, sur la rive droite. Et petit aparté, figurez-vous que l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Madame Sonnet-Saïté, a été élève de ce collège de Tournon. Et elle a trouvé qu'on n'avait pas assez parlé du cardinal de Tournon, qui pourtant est un personnage extrêmement important du règne de François Ier. Et à ce moment-là, elle va écrire un livre que j'ai lu sur le cardinal de Tournon pour le mettre un petit peu plus à la mode. Voilà. Le cardinal de Tournon, homme important, c'est lui qui, par exemple, a négocié la libération de François Ier, qui avait été arrêté et mis aux arrêts à Madrid par les troupes de Charles Quint lors de la bataille de Pavie. Vous voyez, donc c'était quand même un homme important. Chose aussi amusante, figurez-vous que Rondelet a adhéré aux idées de la réforme. Il a même été un peu un chef des réformés à Montpellier. Et voilà qu'il devient le secrétaire du cardinal de Tournon. Il va faire beaucoup de voyages avec le cardinal de Tournon. Et notamment, il va aller en Italie, il va s'absenter carrément un an avec le cardinal de Tournon. Alors, s'il se trouve que c'est un passionné de poissons, et donc il va essayer de récupérer au maximum des informations sur tous les poissons, dans tous les lacs, toutes les rivières où il va. Alors je vous rappelle qu'à l'époque de Rondelet, on appelait poisson tout ce qui vivait, tout être vivant qui vivait dans l'eau. Hein. Il n'y avait pas les distinctions que nous faisons aujourd'hui entre les mollusques, etc. Hein, lui, c'était vraiment tout ce qui vit dans l'eau. Et on verra que plus tard, il va sortir un livre extraordinaire avec plus de 300 espèces qui vivent dans l'eau. Ça a fait une renommée, ça lui a donné une renommée pratiquement universelle. Et quand on voit, on a à la bibliothèque de la faculté de médecine à Montpellier, ces livres avec des dessins absolument magnifiques, phénoménaux, d'une grande précision sur toutes les espèces de poissons qu'il avait. Et puisque je me suis embarqué sur les poissons, je continue sur les poissons. Il avait notamment dans une propriété rue Montel, rue Abbé Montel, non, rue Montel, vous savez, vers le Pré d'Arennes. Vers le Pré d'Arennes, là-bas, eh bien, il y a au bord de l'autoroute un grand carrefour et une propriété qu'on appelle le Grand Rondelet, hein, qui existe encore. Et là, dans cette propriété, donc pas loin de Morin, hein, c'est en bordure de l'autoroute, de l'ancienne autoroute, ce qui est le boulevard qu'on appelle là je ne sais pas combien aujourd'hui, vous voyez. Eh bien, il avait une propriété où il avait des grands bassins dans lesquels il élevait des poissons. Et il avait les bassins d'eau douce, avec une source et un petit aqueduc qui amenait l'eau dans ces bassins. Et en ce qui concerne l'eau salée, eh bien, les pêcheurs du gros de Palavas lui amenaient des poissons et en même temps de l'eau avait par les canaux de latte pour qu'ils puissent avoir des bassins remplis d'eau salée. Voyez. Donc c'était un véritable zoologue. Alors, notre ami Rondelet, si je continue sa carrière... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que Rondelet était un bon protestant, finalement. Il a pas mal négocié, il a été non-violent et très... très, très tolérant, hein. C'était un peu une de ses caractéristiques. Et il avait de très bons amis catholiques. Alors, c'est marrant parce que le cardinal de Tournon était quand même un homme assez anti-protestant. C'est lui qui a suggéré à François Ier d'éradiquer les Vaudois dans le Luberon. Hein. N'oubliez pas qu'en 1545, le baron d'Oppède a liquidé carrément 3500 Vaudois dans le Luberon. Hein. Donc, c'est pas très sympa. Et il était assez opposé donc aux protestants. Et il avait un bon protestant comme secrétaire, voyez, comme quoi les choses, ce qui importe, c'est quelquefois c'est la qualité humaine plutôt que la religion, la qualité professionnelle aussi. De même, un très bon ami de Rondelet, c'était l'évêque Guillaume Pélissier. Hein. Là aussi, c'était l'amour de la science qui a rapproché ces deux hommes et leur esprit tolérant. Alors, je continue sur la carrière, si vous voulez, de Rondelet. Donc, nous avons dit que en 1537, il avait passé licence et doctorat, que en 1539, il commence à faire des cours, et puis en 1545, il devient régent. Alors, je vous rappelle que les régents, c'était les titulaires, les quatre titulaires d'une chaire qui était payée par le roi pour faire des cours de qualité. C'est en 1554 qu'il va publier en latin son livre sur les poissons. Et puis sa passion pour l'anatomie va le pousser aussi à être le principal artisan de la construction du premier amphithéâtre d'anatomie qu'on ait construit en France. Et c'était en 1556. Et je dois dire que cet amphithéâtre d'anatomie a été construit sur le terrain de la rue du Bout du Mont, hein, c'est-à-dire l'actuel Panacée, si vous voulez. C'était l'emplacement de l'actuel Panacée. Et il va être payé essentiellement par les quatre régents de l'époque, dont Rondelet. Ensuite, en 1568, il va traduire son bouquin sur les poissons, qui était en latin, il va le traduire en français. Voilà. À partir de 1564, figurez-vous que les guerres de religion ayant commencé en 1562, la reine Catherine de Médicis se dit « je vais essayer de pacifier le royaume ». Et donc la cour entreprend une tournée dans toute la France. Pardon. Et il se trouve que la cour va arriver avec le roi Charles IX et Catherine de Médicis et tous les princes du sang, le futur Henri IV sera là d'ailleurs, vont arriver à Montpellier où ils vont être très bien accueillis. Et Rondelet, qui était devenu le chancelier de l'université, va profiter du passage du roi Charles IX pour lui demander de prendre des lettres patentes en faveur de l'université de médecine de Montpellier. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le roi va prendre 3 lettres patentes. La première qui dit que les régences doivent être pourvues par concours. Alors, ça avait déjà été fait par le Parlement de Toulouse en 1547. Mais, petit à petit, on retombait dans les travers anciens en cooptant les régents. Quand il y avait 4 régents, quand il y en a un qui meurt, les 3 autres se réunissent et décident que c'est un tel qui va être le futur régent. Et l'évêque disait oui et on n'en parlait plus. Eh bien, non, il fallait revenir à l'ancienne tradition, à savoir que les régents devaient être recrutés par concours, que tout le monde, tous les docteurs, pouvaient tenter leur chance pour être régents. La deuxième lettre patente que va prendre le roi Charles IX, c'est de préciser l'autonomie de l'université par rapport à l'évêque. C'est-à-dire l'évêque ne participe pas aux délibérations, simplement il nomme une fois que les régents ont décidé que qui serait le futur régent. Et enfin, la troisième n'est pas négligeable, si vous y pensez. La troisième n'est pas négligeable, puisque les régents, depuis 1498, étaient payés 100 livres par an. Ils allaient au grenier à sel avec des étudiants. Alors ça, c'était vraiment bien. Ils allaient au grenier à sel avec des étudiants qui attestaient qu'ils avaient bien fait leur cours. C'est dommage, c'est une tradition qui s'est perdue, vous voyez. Mais bon, c'était comme ça. Eh bien, Rondelet va obtenir du roi Charles IX que le salaire des régents, qui n'avait pas bougé depuis 66 ans, puisque ça datait de 1498 et nous sommes en 1564, passe de 100 livres à 400 livres par an. Là, je vous prie de croire qu'il a dû avoir beaucoup de profs qui étaient contents de leur chancelier. Voilà. Et en 1566, Rondelet se rend pour une affaire familiale à Toulouse et au retour, il passe voir un de ses amis à Réalmont et là, il fait chaud, il est fatigué et il va mourir à Réalmont. Et c'est Antoine Saporta qui, quelques jours après, sera élu nouveau chancelier. Voilà, alors il se trouve que Rabelais a été particulièrement ami avec un certain François Rabelais. Alors Rabelais, en fait, il n'est pas venu, c'est l'étudiant certainement le plus célèbre de l'université de médecine de Montpellier, mais en fait, ses séjours ont été assez brefs. Donc la première fois que Rabelais vient, bon, il a décidé qu'il voulait avoir le diplôme de médecin. Alors on peut se poser la question d'abord, pourquoi est-ce qu'il a choisi Montpellier? C'est assez simple comme réponse. D'abord, il a eu déjà des problèmes avec la Sorbonne. La Sorbonne, c'est la scolastique. Il a horreur de la scolastique. C'est un esprit tolérant, un esprit ouvert, un homme qui a soif de connaissances. Donc ça ne lui plaît pas tellement d'être dans cette situation. Donc il n'a pas que des amis à Paris. Donc il vient à Montpellier. Ensuite, il est intéressé par la dissection. Il sait qu'à Montpellier, on fait des dissections, alors qu'à l'époque, on n'en fait pas encore à Paris. Hein. Je vous ai dit, les dissections à Paris se feront 150 ans après celles qu'on pratiquait à Montpellier. Et celles qu'on pratiquait à Montpellier se sont faites quand même quelques dizaines d'années après celles qui a été pratiquée à Bologne. Hein. Voilà. Donc, il choisit Montpellier pour ces raisons-là. Et il arrive et il va signer le registre. Il va signer le registre. J'essaye de trouver. C'est assez amusant parce que chaque professeur, chaque étudiant doit signer dans le registre. Voilà ce qu'il a écrit dans le registre des immatriculations. De sa propre main, moi, François Rabelais de Chinon, diocèse de Tours, je suis venu ici en vue de mes études de médecine et j'ai choisi comme parrain l'illustre maître Jean Skiron, docteur et régent de cette vénérable université. Je m'engage à observer tous les statuts établis dans la dite faculté de médecine, tels que les observent ceux qui donnent leur nom de bonne foi, après avoir prêté serment selon l'usage. J'ai inscrit mon nom de ma propre main le 17e jour du mois de septembre, l'an du Seigneur 1530, signé Rabelais, et on lit en marge à payer 3 livres. Il arrive à Montpellier, mais c'est un homme qui a déjà 40 ans. Et il signe ce registre face à un dénommé Rondelet qui en a 23. Et ce qui est amusant, c'est que Rabelais va être... c'est un bon vivant, il aime rigoler. Et donc, pour lui, pas de problème de se trouver au milieu des jeunes. Et on va voir que quand il y a des carnavals, des fêtes, etc., ben, il y participe sans problème. Hein, ça lui plaît assez. Il est ici, il est bachelier pratiquement 6 semaines après son arrivée. Il va passer sa licence bientôt et puis il va partir à Lyon, on ne le reverra pas, donc là on est en 1530. Hein. Donc 1531, il assiste en janvier à une dissection. Alors la dissection, c'est un truc qui se passe de façon très cérémoniale. Donc sur une table, il y a le cadavre, il y a une chaire dans laquelle il y a le professeur, et il y a un barbier avec son couteau qui exécute les gestes que lui dit de faire le professeur. Et donc on sait qu'en janvier 1531, il a assisté à une dissection, puisque son nom est écrit dans le registre. Ensuite, il disparaît quelques années et il va revenir en 1537 pour passer son doctorat, sa licence et son doctorat. Et là, il est assez fier de passer. Nous sommes en 1537 et il se fait remarquer surtout parce que c'est un homme qui est très avide de grec, un très bon traducteur, et il estime que... il faut travailler à partir des textes grecs originaux et pas des traductions du grec en latin. Et peu de gens à l'époque connaissent bien le grec. Lui, il a correspondu avec Guillaume Budet. Et donc, il va être assez admiré à Montpellier par les cours qu'il va faire, les traductions qu'il va donner, les cours qu'il va faire en grec. Voilà. Alors, que dire encore sur le séjour de Rabelais ? Oh, c'est que en 1920, les étudiants de la faculté de médecine voudront rendre hommage à leur grand ancien et ils vont édifier pour le 6e centenaire de la faculté de médecine en 1920 un monument qui se trouve dans le jardin des plantes à la gloire de Rabelais. Ce monument sera sculpté par le sculpteur Jacques Villeneuve. C'est pas le champion automobile, hein, c'est vraiment un sculpteur de Béziers qui s'appelle Jacques Villeneuve, qui en 1920 va sculpter ce monument, qu'on peut voir encore. Il n'est pas en très bon état parce qu'il est en pierre de Sussargues qui s'est pas mal effrité. Et surtout, sur le devant, sur le mur principal de ce monument, il y a représenté la scène finale d'une scénette qui a été inventée par Rabelais et qu'il a vraisemblablement joué lors d'une fête, peut-être pour la fête des Rois, qui était la fête de l'Épiphanie. Vous savez, au bas de la rue de la Loge actuelle, il y avait un carrefour qu'on appelait le carrefour de la Peyre, qui était le carrefour avec la Grand Rue, la rue Jacques-Cœur et la rue de la Loge. Et là, on montait une scène, une petite estrade, et puis les étudiants s'amusaient à jouer des scénettes. Alors la scénette qui a fait beaucoup rire et que je vous raconte très rapidement, c'est un homme dont la femme était muette, il avait épousé cette femme muette, il va voir le médecin et il lui dit « Est-ce que vous pouvez rendre ma femme la faire parler ?» Et le médecin lui dit « Oui, je peux la faire parler » et il lui coupe une peau qu'il avait sous la langue. Et du coup, la femme se met à parler et le médecin a réussi, l'homme est très content. Et puis, quelques temps après, l'homme revient et dit au médecin « Écoutez, maintenant, j'en peux plus, elle me casse les oreilles, elle n'arrête pas de parler. Est-ce que vous pouvez la rendre muette de nouveau ?» Ah, le médecin lui dit « Non, je ne peux pas la rendre muette, ce n'est pas possible. Mais par contre, si vous voulez, je peux vous rendre sourd. Alors on jette un sort sur cet homme et on le rend sourd. Mais la femme, elle devient enragée de voir qu'elle maintenant, elle parle tout le temps et que son mari n'entend plus, ne réagit plus. Et puis le médecin réclame ses droits. Ses honoraires, et le sourd lui dit « Ah mais moi je suis sourd, j'entends pas ce que vous me demandez », et il le paye pas. Et finalement, il y a réconciliation de l'homme avec sa femme pour taper sur la tête du médecin. Voilà. Sur cette bonne histoire, je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Au revoir.